Pour cette troisième partie de ce Radio Barque, Éric Andrieux, député européen, donc jusqu'au 1er juin, on l'a largement évoqué, vous avez un long passé également de militant politique, socialiste, vous êtes au Parti Socialiste. Depuis combien de temps, Éric Andrieux ?
Oh, ça fait quelques années, j'ai adhéré, bon, j'ai adhéré, je m'en rappelle même plus, oui, dans les années 80, c'est ça.
Oui, ça fait une quarantaine d'années.
Oui, c'est ça,
à peu près. Bon, comme on dirait dans le langage juridique, il y a prescription. Alors, justement, bon, vous avez vécu à l'époque, je pourrais dire, flamboyante du Parti Socialiste, les années 80, Mitterrand au pouvoir, etc. Vous êtes là aujourd'hui. En quelques mots, là encore, un début d'analyse personnelle et militante. Députés du Front, du Rassemblement National dans l'Aude, terre socialiste depuis plus d'un siècle.
Oui. Alors, moi, j'adhère au Parti Socialiste, bien sûr, mais j'adhère surtout aux valeurs du socialisme. Voilà, donc.
Vous faites un distinguo.
Oui, parce que donc le socialisme a son histoire donc et ses valeurs, que je crois d'ailleurs très contemporaines et très d'actualité en tant que valeur progressiste, quoi. Hein, voilà, et je pense que c'est le seul idéal qui peut amener dans ce moment-là de notre histoire commune des réponses à la crise sociétale qu'on rencontre à l'échelle locale et mondiale, pour être précis. Ça, c'est ma lecture, c'est le sens de mon engagement. Hein, lorsque je vois que le modèle néolibéral est un échec. Après ces 40 ou 50 années, donc puisqu'on a créé ce qu'on vient d'évoquer dans la seconde partie, c'est-à-dire la question de la rupture climatique, la question de la crise de la Covid, la question de la guerre, on pourrait développer longuement. Je crois que ça démontre, s'il est besoin, que le modèle néolibéral est un échec et que du coup, on a créé une concentration de la production, une concentration des revenus. En fait, on a organisé le monde autour d'un seul indicateur qui est le produit intérieur brut. Et on a érigé comme seul totem de la réussite de l'argent. Voilà. C'est pas le monde auquel j'aspire, hein, parce que lorsqu'on a des différences de revenus, je le dis souvent, de 1 à 10, je peux l'accepter. Je fais partie des gens qui sont pas contre l'économie de marché, mais une économie de marché régulée, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Mais lorsqu'on rencontre des différences de revenus entre 1 et 10 000, effectivement, là, je suis plus d'accord. Oui. Et cette société-là, elle ne me correspond pas. Et donc, dans le Parti Socialiste.
Oui, là, comme on dit chez nous, il y a quiconque est truc.
Hein. Exactement, il y a quiconque est truc. Hein. Donc voilà. Dans tous les cas, certains adhèrent à ça, mais ça veut dire qu'on perd le sens du commun, on perd le sens même de la vie, finalement. Ça veut dire qu'on a affaire à des multinationales à qui nous avons donné, nous, les politiques, hein, les clés de l'organisation du monde. Vous savez, donc, et que eux, leur question à eux, c'est pas la question de la santé humaine, c'est pas la question de la biodiversité.
Oui, c'est la rentabilité.
C'est la rentabilité. C'est comment gagner plus pour se partager les dividendes. Et là, c'est pas le monde qui me convient. C'est pour ça que je reste socialiste.
Voilà. Alors, revenons justement sur ces valeurs, Éric Andrieux, parce que le Parti Socialiste, bon, on le sait, à une époque, il y avait des courants extrêmement différents.
Bien sûr.
Ce qui allait du centre-gauche à une gauche beaucoup plus marquée.
Tout à fait radicale,
marxiste,
oui.
Même parfois.
Radical, oui.
Très, très, très radical. Jospin ou des gens comme Georges Frêche ont eu un passé de militant assez radical.
Bien sûr.
Bon, quelles sont vos valeurs à vous ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle la social-démocratie ? C'est-à-dire, vous dites, vous respectez et vous croyez en l'économie de marché régulé. Mm-hmm. Est-ce que ce qualificatif de sociodémocratie vous convient à vous ?
Alors, pas complètement. Je dirais plutôt progressiste, voilà, si je devais me qualifier. En fait, je fais partie de au sens de je suis pas favorable à la rupture, pour tout dire. Donc, voilà. Si vous voulez, je suis par la transformation sociale, je suis.
Parce que le marxisme, c'est la révolution.
Bien sûr. Et donc, je ne suis pas marxiste, évidemment. Donc, de ce point de vue-là, parce que moi, je l'ai dit, je ne suis pas partisan de la rupture. Je suis partisan d'une évolution, comment dire, par la démocratie. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que, bon, j'étais pendant très longtemps un fervent défenseur de la démocratie participative. Et je pense qu'il vaut mieux 10 cerveaux qui pensent ensemble qu'un qui pense pour les autres. Voilà. Je crois beaucoup à l'intelligence humaine. Et je participe de ces travaux-là, hein, de réflexion. Et je pense que notre enjeu maintenant, il est celui-là. C'est-à-dire comment on remet. Certains parlent de rupture aujourd'hui. Moi, je crois que c'est pas. En fait, il faut revenir à l'essence même du socialisme. C'est ça, dans ce moment que nous rencontrons, c'est-à-dire la question d'équité, de répartition de la richesse, de solidarité, donc d'égalité. Ça, c'est des sujets qui ne sont pas des, comment dire, des mots reclus. C'est des questions qui sont très contemporaines, de mon point de vue. Et je pense que le Parti Socialiste, dans une règle générale, gagnerait à faire l'analyse de la situation, à dénoncer de façon très claire l'échec, je le redis, du modèle néolibéral. C'est comme ça, c'est une pensée politique, hein. La main invisible du marché, aujourd'hui, et le ruissellement, pour faire simple, si vous voulez, donc c'est pas quelque chose qui a fonctionné, de mon point de vue, et qui a créé beaucoup plus de ruptures. Donc il faudrait, je le pense, commencer à analyser clairement les échecs, depuis plus de 40 ans, de ce que j'appelle le modèle Thatcher-Reagan. En fait, on s'est fait aspirer par ce modèle anglo-saxon, qui crée aujourd'hui ces ruptures auxquelles je faisais référence, et de là, proposer un modèle alternatif qui pose pas comme seul indicateur d'organisation du monde le produit intérieur brut. Je pense qu'il y a d'autres éléments à prendre en considération, parce que le fait que l'on pose le PIB comme seul indicateur, ça nous amène à ce que nous connaissons aujourd'hui, avec une santé humaine détériorée, avec une biodiversité totalement donc détruite, avec un nombre de milliers d'abeilles donc qui ont disparu, pour prendre des exemples concrets, et avec une économie aujourd'hui qui n'est plus dans un équilibre de territoire et de rapport donc aux êtres humains, mais qui est dans un équilibre uniquement financier. En fait, on a fait que financiariser l'économie, oui, on a fait que concentrer, je le redis, la production, et aujourd'hui le monde est tenu par quelques multinationales, et c'est vrai dans tous les secteurs, la pharmacologie, le phytosanitaire, c'est vrai également dans l'industrie, ou c'est vrai donc également dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, à titre d'exemple, au moment où nous parlons sur la question de l'alimentation et du blé, par exemple, 5 multinationales au monde gèrent le marché du blé. Or, le blé, c'est le blé qui fait l'équilibre, donc, au niveau alimentaire.
Oui,
mondial.
C'est une base.
Donc, ça veut dire, c'est eux qui spéculent et qui décident de libérer ou pas libérer. Et donc, ils peuvent, de ce fait, affamer des parties entières du monde dans lequel nous vivons.
Oui,
et
donc,
ça me paraît inconséquent.
C'est une
tout
grande
ça,
fragilité, finalement.
Exactement. Tout ça parce que le politique a décidé dans les années 90, avec l'OMC, d'interdire le stockage de biens publics. Donc ça veut dire que le public n'a plus le droit de stocker donc du blé, et donc on a confié cette mission-là donc à des multinationales donc privées. Ce qui fait que on a inversé, je dirais, la pyramide finalement. En fait, le politique a lâché le politique.
Oui, c'est ça.
Et a confié les règles. Je dis souvent de façon parabolique, on a donné les clés du camion.
Oui, c'est
donc
ça.
À des multinationales.
C'est ça qui est ce phénomène marquant. Et alors comment a-t-on pu en arriver là? Parce que le Parti socialiste a été au pouvoir assez longtemps, en France et ailleurs, et à abandonner ces valeurs-là.
Oui, je pense qu'on s'est fait...
Aspirer, comme vous dites.
Oui, c'est ça, on s'est fait aspirer par ce modèle anglo-saxon, c'était les années 80, c'était Thatcher, Reagan, c'était un concept politique, et je pense qu'on n'a pas été en mesure de résister à ce modèle libéral. Et on a eu des leaders politiques, hein, donc socialistes à ce moment-là, je crois qu'il faut aussi savoir le dire, qui ont permis, comment dire, que ce monde libéral se développe. La différence, enfin, aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est les effets produits. On a les éléments d'évaluation. Donc si un monde, je le redis, dans lequel les revenus peuvent aller de 1 à 10 000 nous convient, ben ne changeons rien. Moi, ce monde ne me convient pas. C'est le sens de mon engagement. Et donc je pense qu'il faut amener de la régulation dans tous les secteurs pour retrouver cet équilibre,
oui, donc,
qui nous fait défaut.
Il faut que le politique reprenne du
exactement
pouvoir.
Aujourd'hui, on a mondialisé l'économie, or il n'y a pas de gouvernement monde aujourd'hui.
Oui,
et
oui.
Donc c'est à ce titre-là que...
C'est ce paradoxe-là qui est finalement...
Je pense qu'il y a un décalage. Si on considère que le politique, je vais en donner une définition très simple, c'est effectivement d'organiser le vivre ensemble par la loi et la règle. La loi et la règle, elle est restée au niveau national, on légifère, mais le marché est allé et s'est développé à l'échelle mondiale sans régulation. On a dérégulé l'économie mondiale. Mmh. Et donc, on a un décalage entre des multinationales qui font la règle et la loi, paradoxalement, par l'échange.
Au-dessus des lois nationales.
Exactement, nationales. Mais ce qui doit nous éveiller, c'est qu'effectivement, le sujet du moment, c'est... Les néolibéraux ont pensé le modèle, ça se tient en tant que soi, même si je le partage pas, en disant c'est par le marché mondial qui va, l'offre et la demande vont s'équilibrer à l'échelle mondiale et ça va garantir la paix dans le monde. Or aujourd'hui, ce que nous vivons en Ukraine, ce que nous vivons en Chine montre, s'il est besoin de le dire, que le commerce ne suffit pas à garantir la paix dans ces États continents. Et que je suis convaincu que ce que fait Poutine aujourd'hui en Russie, c'est pour garantir la paix dans son État, Donc, qu'il a en pro-partie déclenché la guerre. Et ce qui se passe en Chine, regardez à titre d'exemple le développement donc de la rencontre de Macron, notre président de la République, avec Xi Jinping en Chine. Il revient sans contrat commercial. Ça veut dire, et le lendemain, la Chine encercle Taïwan. Donc je pense qu'on ne peut pas ne pas s'interroger de savoir si la guerre, donc, dans ces États-continents, n'est pas nécessaire pour maintenir la paix dans leur propre État-continent. Le commerce ne suffit plus à garantir la paix dans le monde. Et c'est des questions que nous devons nous poser du point de vue géopolitique, parce que c'est de ça dont il est question. Et dans ces questions-là, je pense que la pensée progressiste doit amener ces éléments de vision du monde de façon très claire et explicite. Et ça permettra d'empêcher que le Front National, comme vous le disiez, progresse de façon totalement ahurissante dans ce pays, la France, comme dans d'autres pays européens d'ailleurs.
Oui. Donc pour vous, alors on va conclure là-dessus, Éric Andrieux, le vieux dicton romain, là, c'est vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, ça vous semble encore valable aujourd'hui ?
Oui, moi je suis un fervent défenseur de la paix, effectivement, mais je pense qu'il faut, le monde est ainsi fait, c'est-à-dire qu'il faut savoir se prémunir donc de ce qui peut advenir. Et effectivement, je pense qu'il faut avoir la force de cette prévention-là.
Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci.
Merci à vous.
Merci Éric Andrieux. Voilà, j'imagine une expérience que vous partagerez plus tard avec vos camarades et avec vos citoyens en tant que retraité député européen. Retraité actif et très actif apparemment, semble-t-il. Merci à vous. Le prochain invité alors sera le maire de Cuxac-d'Aude, Grégory Delfour, un maire qui est assez récent sur l'échiquier politique audois et qui viendra nous faire part de cette nouvelle expérience à un moment où la vie de maire, semble-t-il, est de plus en plus difficile. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci Éric Andrieux.
Merci à vous.